Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Daniel Salnave. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine. Est-ce qu'il faut dire écrivaine ou écrivain ?
Moi j'ai dit longtemps écrivain. On dit écrivaine et au fond, tout ce qui peut nous faire sortir de l'invisibilité, c'est pas si mal.
Vous êtes membre de l'Académie française. Vous écrivez des livres. Ces livres sont aussi des objets matériels. Il y a un livre constitué de pages, et sur les pages, il y a des lignes, et puis il y a des caractères. Je ne voudrais pas trop qu'on parle de littérature, je voudrais qu'on parle de cette matérialité de la littérature. Quel est votre lien avec l'objet écrit comme objet matériel ?
Ça dépend si je me place du point de vue auteur-autrice ou lecteur-lectrice. Parce que fondamentalement, je suis une lectrice. Et je veux dire, depuis toujours. Je me souviens à peine du temps où je ne savais pas lire. Donc le rapport à l'objet matériel qu'est le livre, à sa taille, à sa dimension, au caractère dans lequel il est écrit, à la taille des caractères au corps, a forcément toujours joué un grand rôle. Et j'ai un souvenir très précis du passage aux livres qui sont écrits dans des caractères normaux que lisent les adultes. Quand j'étais enfant, il y avait au fond peu de livres écrits en caractères pour les enfants, très gros, etc. Je passais très tôt, j'ai l'impression de ne pas avoir tellement connu cette époque-là, d'être passé très tôt à des livres qui étaient imprimés pour des adultes. Et peut-être que lire, c'est devenir adulte dans un sens.
Vous avez une police de caractère favorite ?
Je ne peux pas dire parce que je ne sais pas très bien les nommer toutes. Et quand j'ai appris des noms pour les désigner, j'ai été très contente. J'ai toujours aimé une grande lisibilité, pas trop d'affectation, mais une grande lisibilité. Peut-être que j'aurais été sous Charlemagne contente de l'invention de la Caroline parce qu'elle changeait tout quand même. Elle donnait à cette écriture une figure totalement nouvelle. Je déteste aujourd'hui encore les livres composés en trop gros caractères, mais je déteste aussi quand, pour des raisons économiques, des éditions de poche par exemple, on compose encore, je ne sais pas, 9 ou 10 des livres qui deviennent pour moi non pas seulement difficiles à lire, mais désagréables à lire. Oui.
Certaines personnes n'hésitent pas à plier la page où ils sont arrivés pour la retrouver après.
J'avoue que plier la page, si ça m'est arrivé, c'est franchement parce que je trouvais rien du tout et que j'étais pressée. Mais corner une page, ça m'est très désagréable. Ah, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai connu dans mon enfance, c'est que beaucoup de livres n'étaient pas massicotés. Il fallait, avec son coupe-papier, et pas avec un doigt, comme faisaient les enfants ou les adultes négligents, ouvrir un livre qui n'était pas coupé. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Ça, j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il fallait préparer sa lecture en dégageant, comme on dégagerait son chemin dans la forêt. Ça me plaisait beaucoup.
Question analogue, si vous allez à la bibliothèque et que vous empruntez un livre et que dans ce livre, il y a une grosse bêtise ou quelque chose qui est objectivement faux, est-ce que ça pourrait vous arriver au crayon à papier, dans la marge, de faire un commentaire ?
C'est une vraie question, ça, parce que écrire sur un livre, pendant des années, je n'avais pas l'audace d'écrire sur un livre, ni pour souligner, ni pour encadrer, ni quoi que ce soit. J'ai commencé à pouvoir écrire sur un livre quand j'ai commencé à utiliser les pages à la fin qui sont blanches et que j'utilise maintenant comme une sorte de carnet de notes. Et finalement, c'est très utile. Je trouve que ça ne nuit pas tellement au livre. J'aime bien. Donc, j'utilise pas les premières, les toutes dernières. Je n'écrirai jamais sur un livre que je ne possède pas ou sur un livre d'une bibliothèque. Alors, la tentation que vous avez évidemment évoquée, c'est corriger une grosse bêtise, une grosse erreur de date, une grosse erreur de... Oui, quand on m'explique, je lis un livre récemment sur Montesquieu, mais fut peu présent sous la coupole. Ben non, on n'allait pas sous la coupole à l'époque de Montesquieu, on était en face, au Louvre. J'avais drôlement envie d'écrire en marge, erreur, mais je ne l'ai pas fait. Ah ben, je ne l'ai pas fait. Mais j'en avais grande envie parce qu'au fond, je le vois que parfois, j'utilise beaucoup les numérisations, mais souvent, je vois qu'à des époques différentes, il y a eu des gens qui, au crayon, etc., ont corrigé. Je suis tellement contente de les rencontrer. J'ai l'impression de rencontrer ce lecteur ou cette lectrice de l'époque. Donc, je ne m'en veux pas du tout. Mais moi, je ne peux pas.
Quelqu'un m'a dit récemment que c'était dans l'exemple de François d'Assise, dont un hagiographe disait que tout était sain dans le corps de François d'Assise, y compris la main, et y compris son écriture, qui, en quelque sorte, acquiert une matérialité de François d'Assise.
C'est beau, ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'en effet, c'est la matérialité et en un sens la spiritualité. C'est-à-dire que ça infuse. Ça infuse tout. Et ça, c'est une belle chose. C'est pourquoi je suis contente quand je vois de la main de quelqu'un cette petite remarque, parfois inutile, parfois sans intérêt, qu'il aurait mieux fait de ne pas faire. Mais ça ne fait rien, il l'a faite, donc il a laissé une trace. Donc la trace, ça l'emporte sur tout le reste.
On a un confrère ici qui consultait une archive dans notre service d'archives et qui, tout à coup, a pris conscience qu'il y avait une note manuscrite de Leibniz. Alors il était tout ému.
Oh, c'est magnifique, ça. Ah ben, j'ai une anecdote tout à fait comparable. J'ai bien connu un historien de l'art, Yorgis Baltrushaitis, qui a écrit sur les anamorphoses, des livres vraiment formidables. Et un jour, il a acheté un exemplaire d'un ouvrage probablement Renaissance. Il y avait des indications sur cet ouvrage. Il a essayé de déchiffrer qui les avait portés. Ce livre a été acheté à Lyon. Et en remontant là-dessus, eh bien, c'est Poussin qui, passant à Lyon pour aller à Rome, où il est resté assez longtemps pour travailler et étudier, avait acheté ce livre qui était des notes de Dürer ou de plusieurs sur la peinture. Donc, tout d'un coup, l'écriture, après tout, on aurait dit, bon, c'est une lecture d'époque, du 17e, 18e, c'était celle de Poussin.
D'un deuxième sujet, et je sais que vous êtes très attaché aux questions d'éducation et en particulier de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, qui est quelque chose qui est négligé très souvent dans notre système éducatif et pas seulement en France d'ailleurs. Il y a ce phénomène tout à fait surprenant que quand on apprend à lire et à écrire, c'est une question difficile pour l'enfant et il va annonner, il va buter sur les lettres et puis au bout du CP, si tout va bien, c'est devenu totalement subconscient. C'est un phénomène remarquable et je trouve que les professeurs des écoles ont tellement de chance de voir ce miracle se produire. Et qu'est-ce que vous pensez de cette façon dont on apprend à lire ou écrire à l'école en France ?
Il est clair que je suis né d'un couple d'instituteurs, mais c'est plutôt par ma mère que par mon père que mon attention a été très tôt attirée sur l'apprentissage. Parce que mes parents étaient instituteurs dans le même village, à l'époque, école des garçons, école des filles. Et à l'école des garçons, mon père avait les grands. Il y avait une deuxième classe pour les petits, cours préparatoires, etc. Et ma mère avait une classe unique. Donc, elle pratiquait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et je me souviens très bien que son mantra, sa règle était « on apprend à lire et à écrire en même temps ». On n'apprend pas à lire tout seul, lire et écrire. Et cet apprentissage conjoint auquel elle était très attachée, c'était sa classe préférée, le cours préparatoire. Et j'ai beaucoup appris en l'écoutant ou en la regardant faire. Moi, j'étais dans sa classe, mais je n'ai pas appris à lire parce qu'elle m'a mise dans sa classe dès que je savais marcher. Et j'ai appris à lire en regardant les autres, tout simplement comme beaucoup d'enfants mis dans une classe avec leur père ou leur mère. Donc, je suis restée très attachée à ça. Et petit à petit, j'ai toujours été intéressée par celles et ceux qui écrivaient sur ces questions. En particulier, j'ai été frappée par les travaux de Liliane Lursa sur l'enseignement, sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, qui a attiré mon attention sur un phénomène qui se développait, mais auquel je n'avais pas suffisamment pensé, qu'on séparait trop souvent maintenant la lecture de l'écriture, et surtout, on n'apprenait pas à former les mots avec tout le corps et le geste de la main. Moi, je suis très frappée, peut-être pas vous, mais moi, c'est presque trop. Je suis sidérée quand je vois des images de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui écrivent et qui tiennent leur stylo entre je ne sais quel doigt, avec le pouce qui passe devant, l'index qui passe par derrière, et je me demande comment ils arrivent à écrire comme ça. Et j'ai eu des étudiants qui parfois écrivaient comme ça. Je ne pouvais pas leur corriger.
Un peu tard.
C'était un peu tard, puis ça aurait été incorrect, ce n'était pas dans nos rapports, ce n'était pas possible. Mais je suis très frappée de ça, parce que la posture, l'écriture... Bon, pensons au correctif, c'est qu'à une époque, on corrigeait les gauchers, ce qui n'était pas une bonne chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais la posture, l'écriture et le lien entre les lettres qui s'inscrit dans la mémoire, on a parlé
d'écrire en attaché.
En attaché, voilà. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est...
Mais bien entendu, aujourd'hui, les jeunes, les enfants ont tendance à écrire avec leur pouce sur leur téléphone.
Exactement. C'est-à-dire, on n'écrit pas suffisamment au moment où on apprend. Et ça, je me souviens très bien de ma mère, parlant de ça. Ma mère fait partie de ces instituteurs très sérieux, etc., très modestes. Elle n'en faisait pas des théories, mais elle expliquait que son expérience lui prouvait.
Encore pire, on peut même maintenant parler à son téléphone et il rédige ce qu'on a dit.
Voilà, ça pose un vrai problème. C'est vrai. Là, maintenant, on a des transcriptions des messages enregistrés.
C'est extraordinaire.
Qui sont extraordinaires. Souvent, elles sont aberrantes, mais il y a des transcriptions. Donc, cette histoire du corps, c'est tout le corps qui écrit. La posture, le dos, le bras, l'épaule, la main, la manière de tenir le stylo ou le crayon.
Ou la plume.
La
à
plume,
l'époque.
Et la plume, à l'époque.
Avec l'encre violette.
Avec l'encre violette et le doigt. J'ai toujours le doigt, d'ailleurs, légèrement, une bosse à cette... Parce que ça frottait beaucoup. Oui.
Je me souviens, mon instituteur écrivait en haut du tableau, avait écrit l'alphabet en lettres majuscules calligraphiques, et on l'avait tout le temps, toute la journée, on avait sous les yeux l'alphabet.
Ça me plaît bien, vous disiez ça, parce que j'écris à la main. Mon travail d'écriture, je le fais depuis très longtemps sur l'ordinateur, mais je continue d'avoir des notes que je prends pendant que je travaille, ou des notes sur un carnet, qui sont manuscrites, bien sûr. Mais je demeure très attachée, bien que je ne les pratique plus, aux majuscules. Elles sont magnifiques. Et je vous retrouvant des papiers de mon père, et je m'aperçois qu'il avait conservé, pour sa signature, les majuscules étaient toujours faites selon l'ancienne graphie des majuscules, dont ce H que j'aime beaucoup, avec cette barre qui sépare les deux, un double dessin, en quelque sorte.
Et c'était aussi quelque chose que tous les Français partageaient.
Oui, oui, vraiment.
Ça, c'est important, ça.
Et comment ? Bien sûr. Moi, je suis frappée aussi de voir qu'on a, au fond, on n'attache peut-être plus tellement d'importance, puisqu'on ne se représente plus dans son écriture. Le nombre de lettres diminue à un point incroyable. Je sais quel pays a décidé qu'il n'y aurait plus de service postal. J'ai oublié lequel, c'est en Europe, mais on n'en est pas loin. On a maintenant un effondrement du courrier. Donc, on ne se représente plus dans son écriture. Moi, quand j'étais enfant, on me demandait de faire attention quand j'écrivais à ma tante, d'écrire correctement, de former bien mes lettres, parce que c'est pas poli autrement. Et c'est bien, au fond, c'était bien de dire que c'est pas poli. Ça veut dire que c'était, oui, c'était comme arriver mal soigné.
Pour ne pas terminer sur une note de ringardise, on n'a qu'à dire, qu'est-ce qu'on peut voir de positif et d'encourageant pour la jeunesse d'aujourd'hui ?
Moi, je pense que, quand j'ai parlé tout à l'heure des numérisations que j'utilise, je pense que nous devons aider les jeunes, les enfants et ceux qui entrent dans le monde à manier ce fabuleuse ressource dont on dispose. Moi, je suis sidérée de cela. Pour moi, mais je suis dans l'admiration constante. Mais je me dis que j'ai la chance d'avoir profité d'une éducation d'avant, mais tout n'était pas bien dedans, mais dans, qui me permet de profiter magnifiquement de ces ressources qui sont extraordinaires.
Vous lisez sur des tablettes ?
Je ne lis pas sur tablette, mais les livres numérisés, je les lis évidemment sur l'ordinateur, et je n'imprime même plus mes manuscrits que pendant que je les travaille et quand je les rends à l'éditeur. Je n'imprime plus. Je n'ai pas besoin de passer par l'impression. Imprimer, ça dépend du papier. Moi, j'imprime jamais. Je n'imprime plus. Mais en revanche, je ne suis pas gênée du tout. Mais je n'ai pas de liseuse. Je ne pars pas en vacances avec des ouvrages. J'ai tort d'ailleurs, ça pourrait être très commode.
En même temps, ça a un inconvénient qui est que dans mon ordinateur, dans ma liseuse, il y a des milliers de livres. Et ça donne un peu une sorte de griserie.
Ça peut remplacer pour certains la lecture. En tout cas, ce que j'aime, c'est ces numérisations. C'est fabuleux d'accéder à des bibliothèques. Et à des... Surtout quand on a une numération sur un texte d'époque. Là, je travaille sur des textes du XVIIe. Je suis tellement contente de voir les culs de lampe, les divers ornements de la couverture. C'est une merveille. Ou de des pages de garde, c'est magnifique.
J'aime beaucoup les culs de lampe aussi.
Non, moi aussi, j'adore.
Bon, alors, pour terminer, j'ai une question. C'est la même question que je pose à tous mes interviewés. C'est, est-ce que vous avez... une musique favorite qui pourrait illustrer notre propos.
Je voudrais une musique que j'aime beaucoup. Je voudrais une œuvre pour piano de Jan Hatzsek, si vous pouviez m'en trouver.
Je vais trouver ça.
Par exemple, dans l'ensemble qui s'appelle « Sur un sentier... » recouvert, enfin, j'ai eu quelque chose comme ça. C'est une petite merveille.
Eh bien, je
vraiment,
vais
vous ferez ça.
Je fais ça avec grand plaisir.
Moi, j'en serais très heureuse.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour cette interview.
Merci, Étienne.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.